la langue. Maintenant, je vais parler de la lèvre, des lèvres et de la bouche.
Mais ça revient au même, rassurez-vous.
Seulement, il y a un petit complément. Il y a un petit complément très, très positif. Alors, j'avais déjà médité ça la semaine dernière.
On peut fermer la bouche.
Non. J'avais déjà médité ça la semaine dernière. Et puis, ce matin... Je sais pas, j'avais l'impression que Dieu voulait qu'on en reparle. Voilà. Donc c'est une impression, je ne suis pas absolument sûr. Donc je vais quand même le partager, c'est biblique de toute manière. Alors c'est, moi j'ai intitulé ça le fruit de la bouche. Le fruit de la bouche. Qu'est-ce que notre,
le fruit de nos paroles.
Qu'est-ce que notre bouche va produire comme fruit? Et j'ai été très touché par le Proverbe 18 au verset 8. Le Proverbe 18. Beaucoup dans les proverbes. Hein.
Chapitre 18.
Ouais. Verset 8. Voilà. Alors, moi, j'ai une traduction là. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Hein? Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Et je me suis dit, si les paroles, les mauvaises paroles donc, descendent jusqu'au fond des entrailles, les bonnes paroles descendent jusqu'au fond des entrailles. Hein? Donc, dans d'autres traductions, c'est marqué « descendent au fond du corps ».
Contre-rapporteur, il veut dire quoi par rapporteur ?
Le rapporteur, c'est celui qui va rapporter une parole, mais dans l'esprit négatif.
Ah, voilà.
Ça fait partie de la médisance. C'est-à-dire que la personne va te rapporter ce qui s'est passé concernant une personne. Et toi, dans ta chair, tu dis, c'est bon de savoir ce qui s'est passé. Mais en fait, c'est, comme ils disent ici, ça s'appelle le, qu'en dira-t-on ?
Le
commérage, le ladis l'a fait. Hein, voilà. C'est la calomnie, oui. Descendre comme des friandises, alors ça paraît très intéressant. Mais au fond, ça fait énormément de mal parce que ça descend très profond. Ça ne reste pas là. Ça descend au fond. Ça voudrait dire qu'il y a des paroles qui peuvent produire au fond de nous-mêmes des dégâts très importants. Tout simplement parce qu'on a prêté l'oreille. Après, quelque chose de positif maintenant. Proverbe 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche qu'un homme rassasie son corps. Est-ce que vous vous rendez compte? Maintenant, c'est sa propre bouche. Là, j'ai entendu la médisance d'un autre. Mais maintenant, ma bouche, elle peut produire dans mon corps, dans mes entrailles, un fruit. Par exemple, bon fruit ou mauvais fruit. Hein. Alors, si maintenant je parle d'un bon fruit.
Ça
peut être une question. Ça peut être une question, mais je vais chercher dans ma mémoire qu'est-ce que je pouvais dire de bon sur moi-même.
Sur
moi-même, puisque c'est bien ça. Hein, c'est du fruit de sa bouche, sa propre bouche. On est d'accord. Qu'un homme, rassasie ses entrailles, son corps. Qu'est-ce que j'ai dit de moi-même qui va rassasier? Rassasier, ça veut dire... Alors, j'ai cherché...
Te flatter, par contre.
Non, pas flatter.
Non, pas flatter.
Une vérité Mais, en fait, c'est une vérité qu'on tient de Dieu.
Ah, c'est autre chose,
ça. Oui, non, c'est pas autre chose. Ça veut dire que, qu'est-ce que Dieu pense de moi? Et je vais le dire moi-même.
Ah.
De moi-même. Au lieu de dire, je suis un con. Je vais dire... je vais dire, Jean, Dieu t'a fait la grâce
d'être intelligent.
Voilà. Et je vais pas me nourrir de ce qu'on peut penser de moi, et je vais me nourrir de ce que Dieu peut penser de moi.
C'est
oui, et alors je vais évoluer comme ça, parce que il est dit qu'on va être rassasié. Alors j'ai cherché ce que ça voulait dire être rassasié. Alors c'est écrit avoir un désir satisfait, être rassasié à satiété, c'est-à-dire pleinement,
repu,
être abreuvé, comme si on avait soif, être enrichi, voilà. C'est du fruit de mes paroles que je vais être enrichi, c'est du fruit de ma propre bouche que mon intérieur va être nourri. Je dois donc cesser de dire des choses mauvaises sur moi-même.
Ouais.
Là, on ne parle plus des autres, hein. C'est plus du commérage.
Ouais,
là, on parle de soi-même. Qu'est-ce que je pense de moi-même et qu'est-ce que je dis de moi-même? Si je dis « Jean, t'es timide » et je me nourris de cette parole-là parce qu'un jour on me l'a dit, je la répète sur moi-même, eh bien, je ne pourrai jamais prendre la parole avec le Saint-Esprit. Je vais freiner le Saint-Esprit. Je vais freiner l'action de Dieu en moi. C'est négatif de dire « je suis timide ». J'ai une petite fille, on lui a dit, et elle a entendu d'elle-même, sans qu'on lui dise, écoutez bien, sans qu'on lui dise, tu es timide. On parlait d'elle, et on disait, oh, c'est pas grave, elle est timide. Et elle l'a tendu de ses oreilles, et elle l'a mis dans son cœur, et tout d'un coup, elle nous a répété, mais je suis timide. Donc c'est normal ce que je vis, je suis timide. Et Isabelle dit, non, tu n'es pas timide. Non. Mets ça dehors. Tu n'es pas timide.
Tu es comme ça, mais je lui ai dit.
Ouais, tu es courageuse, je ne sais pas comment tu l'as dit, mais je l'ai entendu avec mon oreille gauche, et mon oreille droite ne se souvient plus. Alors vas-y, dis-lui comment tu lui as dit.
Je lui ai dit, ma chérie, tu n'es pas timide.
Ouais.
Même si on t'a dit que tu étais timide, ce n'est pas vrai.
Ouais,
tu n'es pas timide. Je ne sais plus ce que je lui ai dit le moment-là. Et un jour, il allait me dire, mamie, J'ai dit ça, je suis plus timide. Ah ben, j'ai dit, mamie, elle est contente, ma chérie.
Voilà. Vous voyez, elle se répétait en elle-même.
Elle
nourrissait son intérieur de ce qu'elle avait entendu d'elle. Voilà.
Oui, et puis je lui donnais des faits. Je lui dis, regarde, là, t'as pas été timide. T'es arrivé, tu vois, t'es pas timide. Je lui ai prouvé, quoi. Ouais.
Donc voilà, elle a été guérie. On avait dit que la parole guérissait la dernière fois, que la langue avait le pouvoir de guérir. Et elle a été guérie, là. Voilà. Alors maintenant, elle ne se dit plus ça à elle-même. Donc, il faut faire très attention de ce qu'on a entendu jadis sur nous-mêmes et qu'on répète sans cesse sur nous-mêmes.
Et qu'on croit.
On est persuadé. On est persuadé. Donc, on est bien rassasié. Alors moi, j'aime bien le mot entraille. Parce que le mot entraille, c'est tellement profond. C'est pas dans le domaine de la mémoire. C'est dans le domaine de l'âme, des émotions, c'est comme si c'est la charpente intérieure. La charpente intérieure. Est-ce que la charpente intérieure, elle est construite avec les mots de Dieu? Et dans cette traduction, on dit son corps. Eh bien, figurez-vous que je suis aussi d'accord avec ça, dans cette traduction-là, parce que je crains les courants d'air. Ferme la fenêtre, il y a des courants d'air, je vais tomber malade. Je vais choper un courant d'air et je vais avoir une angine. Ferme vite la fenêtre et la clim. Reste bien au chaud à 45 degrés dans la voiture. Parce que je crains le courant d'air. Parce que ma mère m'a dit, ferme la porte, il y a des courants d'air, tu vas tomber malade. Et ça revient et on le prononce. Et on dit à son mari ou à sa femme, ferme la porte parce qu'il y a des courants d'air et je vais tomber malade. Je nourris mon corps avec cette confession négative.
Il y a plein de confessionnels
négatifs
comme
voilà.
Ça.
C'est révélateur.
Et Isabelle.
J'ai beaucoup de chance, hein.
Alors, un exemple.
Il y a plein de
confessions négatives, on le dit.
Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas.
On se la chaude.
Alors, on va prendre l'exemple. Isabelle a vécu ça. À propos de la clim, Isabelle a vécu ça. Parce qu'en métropole, on a acheté une voiture à clim. On n'avait pas besoin, il faisait tellement froid. Sauf 2 mois dans l'année. Et alors, Isabelle avait peur de la clim parce qu'elle avait entendu...
C'est pas que j'avais peur, c'était... À chaque fois que je me mettais en face de la clim, j'avais rhume.
Mal à la gorge.
Voilà, et mal à la gorge. Et je disais, une fois j'ai pris la voiture, je vais pas me mettre la clim parce que je vais... le courant d'air, je vais être malade. Et dans ma pensée, le Seigneur, il a dit non. Tu as toujours entendu ça de ta maman. Ta mère qui était sûre qu'elle avait peur des courants d'air, ça lui faisait, elle était malade et tout. Mais moi, je te dis que maintenant, si tu arrêtes de croire à cette pensée-là, tu vas être guérie. Je dis, ok, Seigneur. Je dis, oui, c'est vrai, j'ai toujours entendu ça, moi, dans ma jeunesse. Ça a construit quelque chose dans ma vie, dans ma pensée. Et je dis, je suis d'accord, Seigneur, de croire que je vais mettre la clim et que je ne serai plus malade parce que tu me le dis. J'ai roulé, j'ai mis la clim et depuis, je n'ai plus jamais été malade. Tu vois, c'est une construction que Dieu, que les parents, il faut s'en rendre compte. Hein. C'est leur crainte, c'est pas de leur faute. Mais moi, ça avait construit que le courant d'air, t'es malade. Voilà, c'était d'office. Et Dieu, il m'a dit non.
Donc, vous voyez bien que le corps, le corps physique est rassasié, ou nourri, ou repu de confession. Et ça peut influencer vraiment notre état physique. Voilà, autant que notre âme, que nos émotions. Et que notre esprit, parce que notre esprit qui est en relation avec Dieu, exemple, les mauvaises nouvelles là, on est gavé mais surchargé de mauvaises nouvelles, on en a tous les jours, t'allumes la radio, t'ouvres internet, tout ça, c'est que ça. Donc maintenant, c'est bien de savoir ce qui se passe dans le monde, mais attention, parce que ce que t'es en train d'entendre et de confesser rassasie ta vie. C'est-à-dire, tu fais le plein. Tu fais le plein de quelque chose. Est-ce que, faut bien se poser la question là. Est-ce que il y a quelque chose de débordant positif qui va arriver ou de débordant négatif? Parce que c'est du fruit de ce que moi j'ai nourri tout mon être que je vais déborder. Il est écrit, c'est du fruit de l'intérieur que déborde la bouche, c'est bien ça. Ça vient du cœur. Et le cœur, il a accepté quoi? Il a accepté de bonnes nouvelles ou il a accepté de mauvaises nouvelles?
Que de les bondes, pour le moment.
Voilà. Donc, c'est très important de faire le tri, mais sévère, hein. Moi, je vous dis, hein, sévère, le tri. Parce que je suis appelé à être un serviteur de Dieu. Vous tous, on est tous appelés des serviteurs de Dieu. On est appelés à guérir les malades, à annoncer l'évangile, à délivrer les captifs. On est appelés aux œuvres de Jésus par le Saint-Esprit. À ces œuvres-là, pas moins. Puisque Jésus a dit, ferez des choses plus grandes que moi. Et nous, on est tellement chargés de négatif qu'on n'est même plus capable de mettre la tête dehors et de dire, Jésus va te délivrer. Allez, lève-toi et marche. Bref, c'est même plus possible tellement on est gavé avec des choses comme ça. On est rassasié de mauvaises choses. Donc c'est pour ça que moi, ça me... Alors, il faut que je me calme là. il est important de confesser les choses de Dieu, voilà, de se rassasier des choses de Dieu, des choses bonnes, mais dehors, dis et bénis-toi toi-même, tous les jours, bénis-toi toi-même, on se lie les mains, on se lie les pieds soi-même, délie-toi, t'as pas besoin de ton frère tout le temps pour te délier, délie-toi toi-même. C'est pas parce que tu vas hyper mal, allô, c'est pas une critique, hein, c'est un exemple. Allô, je vais très, 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 très mal. Ouais, qu'est-ce que t'as fait, là? Ça fait 3 semaines, là. Qu'est-ce que t'as fait pendant ces 3 semaines? Je dis un exemple, hein. Je me suis pas nourri des bonnes choses, quoi. J'ai nourri mon intérieur. Et tout d'un coup, ça sort. Voilà. Imaginons que je mange du McDonald's. Pendant 3 mois, c'est évident, quoi. C'est évident. C'est évident ce qu'on va vivre. Imagine, tu manges de la crème tous les jours. hein, du beurre, de la crème, toutes les choses grasses, grasses, grasses. Mais évidemment, tu vas aller mal. Voilà, et ben, c'est comme ça avec l'esprit. Voilà, ce que je vis, ce de quoi je me nourris, c'est ce. J'ai même pas pensé à toi. Même pas pensé à ton pot de Nutella. Voilà, voilà, on est rassasié. Alors, le verset, non seulement il le dit une fois, mais il le dit une deuxième fois. Alors, c'est du fruit de sa bouche qu'un homme rassasie ses entrailles. C'est du revenu de ses lèvres qu'il sera nourri. Du revenu de ses lèvres. Donc, non seulement croire aux bonnes choses, mais les dire. Les dire. Qu'est-ce que je dis? Quand il y a le doute qui arrive par rapport à une guérison, qu'est-ce que je dis? Je dis gloire à Jésus-Christ, parce qu'il a fait sa promesse. Il a dit qu'il est fidèle. Donc, je prends cette guérison pour moi.
On confesse la parole.
Je le confesse. Voilà. Jésus a dit, la parole a dit. Quand Jésus a été tenté par le diable, Satan voulait lui souffler des pensées fausses, et lui, il a répondu par ce qui est vrai, parce que il l'a dit avec sa bouche. Il a dit, tu ne mangeras pas de pain seulement, tu seras nourri par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu seras nourri. Jésus pratiquait ça. Il se nourrissait des paroles de Dieu. Alors qu'il lui était lui-même la parole de Dieu. Vous vous rendez compte? Cette obéissance, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Nourrissons-nous. On nourrit les entrailles, c'est-à-dire l'être profond. On nourrit le corps, on nourrit l'âme. L'âme. L'âme, elle a besoin d'être nourrie, d'être recentrée tout le temps. Parce que Satan joue beaucoup sur notre âme. C'est tu récolteras ce que tu as semé. D'accord ? Si mes lèvres sèment la louange, je vais récolter la louange à l'intérieur, un esprit heureux. Vous voyez ? Alors, après, il y a juste, je ne serai pas trop long, rassurez-vous. Dans Hébreux 13, verset 15, il est dit « La louange est le fruit des lèvres ». La louange est le fruit des lèvres. Il faut que mes lèvres louent Dieu. Louent Dieu pour le mari qui m'a donné, pour la femme qui m'a donné, pour les enfants qui m'a donné, pour le travail qui m'a donné, pour la voiture qui m'a donné, pour la famille qui m'a donné, pour le etc. L'église qui m'a donné, etc. Tout. Je loue Dieu. Parce que dans sa main, il n'y a aucun don qui me fait du mal. Tous ces dons sont pour mon bien. Donc, il faut que je commence à confesser avec mes lèvres que je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord. Merci pour telle situation. Merci, même si vous avez des conflits avec quelqu'un, remerciez Dieu parce qu'il y a une solution. Merci Dieu, il y a une solution. Merci, je suis né dans cette famille. Avec ses frères et sœurs, avec ses parents-là. Moi, j'ai pas fait ça hein, au début. J'ai pas fait ça au début de ma vie chrétienne. J'avais un reproche, moi, en arrière-plan. Je ne l'ai plus. Je me suis réconcilié. J'ai dit merci pour mon père, merci pour ma mère. C'est à cause de ça que j'ai reçu Christ. À cause de ce qu'ils étaient, de cette famille-là. À un moment donné, je pensais que ma famille spirituelle était beaucoup plus importante que ma famille physique. Et donc, je les ai carrément mis de côté. Voilà. Je me suis repenti et je suis revenu en arrière et j'ai aimé ma famille physique. Voilà.
Après, si tu avais cette famille-là, c'était pour que tu évolues.
Exactement. Dieu avait tout sous son contrôle et comme un don précieux pour moi. Voilà. On déclare... Alors, la louange, en réalité, d'après Hébreux 13, c'est déclarer ouvertement ce qui se rapporte à la personne de Jésus. La louange, c'est ça. Déclarer avec mes lèvres ouvertement ce qui se rapporte à la nature de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il est, Jésus-Christ? Et c'est vrai, remets-toi un petit peu en arrière, quand tu loues Dieu, Tu ne loues pas Dieu parce que ça va bien. Tu loues Dieu parce que lui, il est merveilleux. Parce que lui, il t'a sauvé. Parce que lui, il te guérit. Parce que lui, il est merveilleux, il est fidèle. Parce que lui, il a de l'amour pour toi. C'est en fait décentrer nos regards. Au lieu d'être, de louer Dieu parce que tout va bien, je loue Dieu parce que lui, il est merveilleux. Et vous allez voir, votre louange va changer. Hein. Elle va changer. Elle sera radicalement positive. Votre esprit sera nourri. Pourquoi ? Parce que de mes lèvres est sortie une louange à Dieu. Et c'est comme à ce moment-là, si l'Esprit de Dieu peut retourner à moi et me rassasier de lui-même. C'est le principe du parler en langue. Quand je parle en langue, je dis les merveilles de Dieu et mon esprit est nourri. Mais le parler en langue, ça ne se fait qu'avec la bouche ouverte. Il faut que ça sorte. Il faut qu'il y ait des mots audibles qui sortent. Et je parle par l'esprit à Dieu et mon esprit est nourri. C'est comme ouais, un cercle sans fin. Et plus je suis nourri, plus je loue, plus je suis nourri, plus je loue. Et c'est, voilà, c'est ça. La louange, c'est ça. Le parler en langue, c'est ça. Ensuite, dans Jean chapitre 1, la parole ou la louange ou la lèvre ou la bouche est créatrice. Créatrice. La parole a été faite chair, elle est venue parmi nous, rien n'a été fait sans elle, tout a été fait par elle. Pourquoi Dieu a-t-il utilisé sa propre bouche pour créer ? Parce que c'est un principe qu'il veut nous communiquer. Notre bouche va créer comme Dieu a créé. Et vous remarquez que Dieu, c'est Genèse 1, quelle merveille, quelle merveille. Oh, Dieu planait au-dessus du chaos. Ah, que c'est beau. L'Esprit de Dieu planait. Imaginez, il était là, allongé sur le chaos. Il planait et il dit que la terre soit. C'est sorti de sa bouche. Et nous, dans nos chaos, parce que nous aussi on vit des chaos, des difficultés, pourquoi on ne planerait pas avec un esprit céleste en disant que ça soit créé ? Que ce que je ne vois pas là, parce que Dieu ne voyait pas. C'est bien ça, tout était noir. Sans dessus-dessous, c'est ça le chaos. Tout est mélangé, la terre, la mer, tout est en vrac. Et il plane et il dit que cela soit et cela fut. C'est incroyable quand même, cet esprit-là. Eh bien, la langue, elle est capable de créer ça. Parce qu'on est spirituel et Dieu nous entraîne dans le même sillage que lui. Et c'est pour ça que Jésus, sa parole, quand il parlait en Israël, sa parole créait. Il ne se fatiguait pas à prier 3 heures pour quelqu'un qui avait de la fièvre. Il ne se fatiguait pas. La parole sortait. Et hop, le miracle était là. Voilà. Tout sort de la bouche. Et ça vient du fond des entrailles. Et c'est pour ça que nos entrailles doivent être nourries de bonnes choses. Parce que c'est un stock. C'est comme si on accumule des choses. Et au moment voulu, hop, ça sort. La chose sort. C'est incroyable. Sois guéri. T'as pas prié 3 heures, hein. Tu t'es pas remis en question. T'as pas fait une introspection pour savoir dans quel état tu es. Ah. Pourquoi? Mais parce que t'es déjà plein de l'esprit. Et si t'es plein d'esprit, il faut pas attendre 3 heures. Ah, la parole est créatrice. Romains 10, verset 8. La parole est pleine de foi. Donc, prenez Romains 10, verset 8. Romains 10, verset 8, j'adore. Romains 10. Je vous cite en ce moment tout ce qu'est la parole. Tout ce qui sort de la bouche, quelle caractéristique elle a. Donc Romains 10, verset 8. Que dit-elle la parole ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Wow, c'est fort quand même. Voilà la parole de la foi que nous prêchons. La parole de la foi que nous prêchons. Cette parole est toujours pleine de foi. Et vous savez pourquoi elle est pleine de foi ? Parce qu'il y a un stock là-dedans. Il y a un stock. J'ai envie de dire le mot là. On a fait le plein. On a fait le plein. Quand tu vas faire le plein d'essence, tu n'as pas mis 3 gouttes. Tu t'es complètement saturé d'essence dans ton réservoir. Tu peux faire des milliers de, un millier de kilomètres avec ça. Certaines voitures font 1000, 1500 kilomètres avec un plein. D'autres moins. Voilà. J'ai fait le plein de mon réservoir. Où est mon réservoir? Là. C'est mes entrailles. Mes entrailles, là. Elles sont pleines de quoi? Des paroles de Dieu. Des bonnes paroles de Dieu. Et je vais retransmettre les bonnes paroles de Dieu par ma bouche. Je vais déjà me bénir et je vais bénir les autres. Et je vais bénir Dieu. Avec la foi. Ensuite, dans Éphésiens 4, verset 29, la parole est édifiante. Éphésiens 4, verset 29. La parole est édifiante, ça veut dire elle fait du bien. Donc là, la parole de ma bouche, si elle n'est pas édifiante, si elle ne fait pas du bien à l'autre, bah, il faut qu'on se taise. Il faut qu'on se taise. Vaut mieux ravaler et dire tant pis pour ma colère. Tant pis pour ma colère. L'autre, il va pas être édifié, il va être malheureux, ça va lui faire un poids sur lui, donc je vais m'abstenir. Voilà, je vais m'abstenir. Que de votre bouche sorte seulement ce qui est édifiant. C'est ça que ça veut dire. Et il y a même un verset, je sais plus où il est, il dit que tout ce qui est honorable, digne de louange, je sais plus où c'est, Philippiens peut-être, noble, honorable, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. De vos pensées. Vous voyez bien qu'on se nourrit, on se nourrit, bien sûr, par la parole, par les, notre pensée est vraiment nourrie, mais après, là, après, ça va forcément sortir par la bouche. Ensuite, quelque chose sur la grâce. La grâce. Alors, je vous garde le meilleur pour la fin. parce que je suis en train de sauter en paravent. Luc chapitre 4, verset 22. Tous lui rendaient témoignage. Merveilleux. Et admiraient les paroles de grâce. Regarde, rendez-vous compte. Tous, tout Israël rendait témoignage à Jésus et admirait tout ce qui pouvait sortir de sa bouche. Pourquoi ? Parce que c'était des paroles de grâce. Avez-vous déjà été en contact avec des personnes légalistes ?
J'ai pas entendu.
Avez-vous été en contact avec des personnes légalistes, c'est-à-dire des gens qui ne prêchent que la loi ? Tu ne dois pas faire ça. Prends-toi compte. Tu as fait ça. T'es un mauvais chrétien. Et en fait, on dirait que l'évangile se résume à suivre Jésus avec ses propres forces. Voilà ce que l'évangile est résumé. Il faut faire ci, il faut témoigner, il faut prier, il faut jeûner, il faut passer des nuits de prière, il faut louer Dieu, il faut... Et puis c'est que ça, que ça, que ça. Ils ont l'impression, là, de mettre des fondations. Comme ça, je tiens droit. Voilà. Et quand la tempête arrivera, je vais tenir. Il faut chasser les démons, il faut discerner, enfin bref, c'est des il faut. Et ça, c'est, ça s'appelle la loi. La loi. C'est vrai que la loi est juste, mais la loi n'apporte pas la vie. Il n'y a que la grâce qui apporte la vie. Avez-vous été en contact avec quelqu'un qui a de la grâce en lui ? Jamais vous sentez condamné. Jamais vous êtes moins que lui. C'est-à-dire que il ne se mettra jamais au-dessus. Il se mettra à égalité. Il vous fait du bien parce que vous ne vous sentez pas diminué. Vous ne sentez pas moins que rien. Les paroles de grâce, c'est toujours un encouragement. C'est toujours un réconfort. C'est toujours une porte de sortie. Et déjà, il vous parle, il n'y a jamais de porte de sortie. Vous êtes coincé. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Jamais de porte de sortie. La grâce nous donne toujours une porte de sortie salutaire. Vous savez, une issue de secours. Comme dans les tunnels. Et alors, voilà, l'esprit de Jésus, c'était un esprit de grâce. Et pourtant, il était tout. Il était tout. Lui, il avait fait le monde entier. Il savait tout. Il pouvait tout. Et il ne faisait pas sentir sa supériorité. C'était toujours un encouragement. Des paroles de grâce. Dans Ésaïe chapitre 6, il est dit que l'Éternel était assis sur son trône. On va le lire. En ce moment, j'y reviens tout le temps. Ça fait des semaines que j'y pense. Ça me fait du bien, rien que d'y penser à ce passage-là. Ésaïe chapitre 6. Voilà. Verset 1. J'ai déjà lu, je relis. Je vis le Seigneur assis sur un trône haut élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins, donc ce sont des anges qui sont très 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 proches de Dieu. Il y a les chérubins, il y a les séraphins, il y a d'autres anges. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Donc ils voyaient la gloire de Dieu. Chacun d'eux avait 6 ailes. Et ils criaient l'un à l'autre. Et disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Vous savez quoi? Ces anges, ils voyaient quelque chose et ils le confessaient de leur bouche. Voilà. Ils étaient en présence de Dieu et ils confessaient ce que Dieu était, qu'il est. Sous leur regard. Et quand ils tournaient les yeux vers la terre, ils voyaient toute l'œuvre de Dieu et ils étaient en admiration et ils disaient, avec leur bouche, la terre est remplie de sa gloire. Et nous, qu'est-ce qu'on dit ? La terre est remplie de malheur. Parce qu'on ne voit pas Dieu. On ne voit que les infos. On ne voit que ça. Et on nourrit nos pensées, notre cœur avec ça. Mais les séraphins voyaient Dieu. Et en voyant Dieu, ils voyaient que l'Éternel remplissait la terre entière. Et que toutes ses œuvres étaient merveilleuses. Ils n'ont vu rien de négatif. Ils n'ont rien dit de négatif avec leur bouche. La terre est remplie de sa gloire. Et moi, qu'est-ce que je dis tous les jours ? Alors moi, je dis, il faut qu'on change de langage. Il faut qu'on dise « Merci Seigneur, tu reviens bientôt. Merci Seigneur, tu sauves aujourd'hui. Merci Seigneur pour mon voisin, ma voisine, etc. etc. » Remerciez Dieu pour tout. Parce que dès que vous priez, que vous louez Dieu, vous faites l'œuvre de Dieu en louant Dieu. Et que l'œuvre de Dieu est débloquée par votre confession. C'est comme si Dieu a le droit, enfin, que son royaume avance dans votre entourage. Louez Dieu pour votre mari incroyant. Parce qu'il est écrit, et votre mari est sanctifié. parce que la femme est croyante. Votre mari est sanctifié par la femme croyante. Et vos enfants sont sanctifiés par ce que les parents sont croyants. Mais alors pourquoi est-ce qu'on pleure? Il faut qu'on prie d'une autre manière. Il faut qu'on loue Dieu pour nos enfants et pour notre mari. Ils sont sanctifiés. Pourquoi j'entre pas là-dedans? Parce que j'ai pas la vision céleste. Parce que je ne regarde que sur la terre, sans regarder à l'Éternel. Vous savez quoi? Les séraphins. Voilà le trône de Dieu. Voilà. Alors je mets, c'est ma Bible, le trône de Dieu. Et voilà les séraphins qui volent. Ils voient Dieu, ils sont au-dessus de Dieu. Mais en dessous de Dieu, il y a quoi? Il y a la terre. Il y a nous. Et les séraphins, ils disent, waouh! La terre est remplie de ta gloire. Je vois là, à travers toi. Je vois au-dessus parce que je suis au-dessus de toi. Je vois toute ton œuvre, Seigneur. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. La terre est remplie de ta gloire. Mais c'est la vision céleste qui nous permet de dire ça. Si on voit Dieu, on voit ça. Si on voit pas Dieu, on voit pas ça. Et notre bouche confessera l'inverse de ce qu'il faut confesser. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une révolution à faire en nous. On est trop terre à terre. Et effectivement, Dieu le sait. Dieu ne nous en veut pas du tout. Il veut nous emmener plus haut. Et quelques-uns d'entre vous ont lu La puissance de la louange, hein, de la prison à la louange. Remarquez que dans ces livres-là, on regarde Dieu et on loue Dieu et on ne regarde pas ce qu'il y a sur la terre. Et on croit que Dieu agit. Et on arrête de pleurer. Et on loue Dieu. Moi, j'ai lu des témoignages dans ces livres, des témoignages incroyables. Incroyables. Qu'est-ce que peut produire le fruit de la lèvre? Voilà. Et je me rappelle en particulier d'une histoire qui disait qu'il y avait un père de famille, la mère était convertie, les enfants étaient convertis, il n'y avait que le père qui n'était pas converti. Il avait une tendance à l'alcool. Mais il ne voulait pas de Dieu, clairement. Le dimanche, quand toute la famille était réunie, dès qu'ils avaient mangé, ils partaient. Et alors, les gens de cette famille, un des fils de cette famille, avait entendu une prédication sur la louange, louer Dieu pour toute chose, et s'est dit, mais ça fait 20 ans que dans notre famille, on prie pour le père, et qu'il n'est pas converti. Il y a un problème. Moi, je vais écouter ce gars-là qui a dit qu'il faut louer Dieu. Moi, je vais le mettre en pratique. Le soir, il est revenu. Avec sa femme, ils ont loué Dieu. La mère a loué Dieu. Les enfants ont loué Dieu. Peu de temps après, un dimanche, il était à table. Et le père, il dit, tiens, qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement Jesus People? C'est lui qui a entamé la conversation. Et tout le monde a partagé ce qu'il pensait de ce mouvement de jeunesse. Que les jeunes, beaucoup de jeunes croyaient en Jésus, il y avait un grand mouvement aux États-Unis. Il est resté très tard le soir parce qu'il était complètement changé. Et ces gens-là ne lui ont rien dit de moral. Ils ont assisté à une œuvre de Dieu parce qu'ils ont loué Dieu, parce qu'ils étaient comme les séraphins et qui volaient au-dessus de Dieu et qui disaient « Saint, Saint, Seigneur, toute la terre est en toute sa gloire. » Mon père est rempli de ta gloire, mon mari est rempli de ta gloire, mes enfants sont remplis de ta gloire, et ils volent, et ils volent. Et c'est comme Dieu étendu sur le chaos qui dit, hé, que cela soit! C'est beau, c'est beau. Et maintenant, une petite merveille. Et maintenant, une petite merveille dans le cantique des cantiques. Jamais t'as pu lire ça? Oh, viens chez moi et je te fais un cours sur le cantique des cantiques. Tu ne sors pas vivant.
On avait commencé à le faire. Oui, on avait fait des études, hein, bibliques là-dessus, c'est vrai.
Ah, ouais.
Qu'est-ce qu'il y a avec le
cantique? Ah, le cantique des cantiques. C'est le chant de Jésus à l'église. C'est ce que chante Jésus à son église.
Oui, l'Ancien Testament.
Après les psaumes. Cantique chapitre 4. Cantique chapitre 4. Verset 11. Alors, écoutez bien, ça c'est Jésus qui parle, verset 11, il dit, tout le monde là ? Verset 11, il dit, tes lèvres, mon épouse, distillent des rayons de miel.
C'est beau, hein ?
Jésus dit ça à vous, à nous, par la foi. Le miel et le lait sont sous ta langue. Et on arrête là.
C'est à nous qui parle.
Oui, c'est à nous qui parle. Donc, vous comprenez bien que des lèvres de l'épouse, il ne peut pas sortir n'importe quoi. Il ne peut pas. C'est pourquoi Jésus dit, il y a du miel. Qu'y a-t-il de plus doux que le miel ? Rien. C'est Salomon qui le dit. Non, c'est Samson qui le dit. Il n'y a rien de plus doux que le miel. Et le lait, il n'y a rien de plus pur que le lait. Donc, ça veut dire que dans nos lèvres, ce sont des paroles douces, on a dit de la grâce, et des paroles pures, qui sont inspirées forcément par le Saint-Esprit. Tes lèvres, mon épouse, distillent des rayons de miel. Maintenant, chapitre 7, verset 10. Alors, « Et ton palais comme le bon vin qui coule en faveur de mon bien-aimé. » Et ton palais, c'est la bouche. Ton palais comme le bon vin qui coule. Hein?
Moi, j'ai pas ton palais.
Oui, mais t'as quoi comme traduction?
La bouche.
Hein? Oui, vas-y, dis.
C'est pareil, c'est et ta bouche comme un vin.
Ah, voilà. D'accord.
Qui coule aisément pour mon bien-aimé.
Voilà. C'est pareil, il y a donc le palais, la bouche, la langue. Donc, mes lèvres, ma bouche, c'est comme du vin, un vin excellent, qui coule pour Jésus. C'est la louange. C'est la louange. Moi, je suis amateur de vin. J'aime le vin. Et vraiment, je ne suis pas un soulard. Hein. Mais t'imagines que les paroles qui sortent de ta bouche pour Jésus sont comme un vin tellement excellent pour lui. Pour lui. En faveur de mon bien-aimé. C'est l'Église qui parle à Jésus. Et quand Jésus goûte les paroles qui sortent de notre bouche, il dit oh, ça c'est formidable. Ça. Oh, donnez-moi ça encore, c'est trop bon.
On construit quelqu'un ou on détruit quelqu'un avec nos bouches. Bouche. On peut détruire quelqu'un juste avec nos bouches. Mais on peut le construire.
On se détruit aussi.
Voilà. Oui. Voilà, on parlait de ça tout à l'heure. Oui. Se dire des paroles justes à nous-mêmes. Pas des paroles qui vont nous détruire. Et pour se dire des paroles justes, on ne peut utiliser que les paroles de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas les pensées humaines qu'on va se répéter. Ouais. Ce sont des paroles qui ne produiront pas les bons fruits. Que les paroles de vérité qui sortent de Jésus. Parce que Jésus, c'est la parole. C'est la parole faite chair. Voilà. Donc, parce que un homme ou une femme ne peut pas grandir s'il ne cesse de confesser des choses négatives ne pourra pas grandir. Croyez-moi, Dieu va attendre. Dieu va attendre qu'on arrête de parler comme ça.
Ouais. Je n'ai pas entendu.
Dieu, on ne peut pas grandir dans la vie chrétienne si tu confesses des choses qui sont fausses, sans la foi, sur nous-mêmes. On ne grandira pas. Au début de ma vie chrétienne, je confessais des choses négatives, tout le temps. J'avais été habitué dans ce style de vie-là, et Dieu ne m'a pas forcé. Hein. Il a attendu. Et un jour, je lisais la Bible, je tombe sur un verset qui dit « Vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Et je dis « Ah non, ça c'est trop fort ». Voilà, j'étais en train de confesser l'inverse de ce que la Bible disait. Et vous savez ce que Dieu m'a dit ? Il m'a dit « Bah, arrache la page ». J'étais en train de lire le verset sur une page. Il m'a dit bah, arrache la page. Et je lui ai répondu bah, je peux pas, Seigneur, c'est ta parole. Et puis bah, alors crois-la. Donc le Saint-Esprit habite en toi. Voilà. Voilà. Imagine que tu es impatient. Et tu dis ah, je sais que je suis impatient. Ah, bah, je sais, je suis comme ça. Et voilà. Et puis demain, tu diras ah, bah, je suis impatient. Et puis après-demain, tu diras « Ah ben, je suis impatient ». Mais Dieu ne dit pas ça dans la Bible. Dieu, il dit « Revais-toi de Christ ». Et Christ est patient. « Ok, Seigneur, je me revais de Christ ». Et ça y est, tu viens de confesser quelque chose qui va te faire grandir. Non seulement tu vas nourrir tes entrailles de ce qui est vrai, mais tu vas permettre à Christ de vivre en toi. Puisque tu le confesses. Voilà. Notre bouche a un tel pouvoir. Voilà. Je nourris mes entrailles. C'est avec ce verset-là que j'ai commencé à méditer là-dessus. Je nourris mes entrailles avec ma langue.